Alors effectivement, c'est la suite pour ceux qui étaient absents l'an dernier, c'est peut-être un peu dommageable, mais effectivement, j'ai présenté une première partie l'an dernier, car en effet, Rabelais a fait 4 voyages en tout en Italie, donc l'an dernier, j'ai évoqué les 2 premiers, et logiquement, je vais vous parler des 2 derniers aujourd'hui. François Rabelais, Romy Pett, un ami qui m'avait dit ici même, lors de la dernière séance, mais qu'est-ce que ça veut dire, Romy Pett? Ben, je lui ai dit tout simplement, ben, c'est le contraire de Romifuge. Hein? Voilà. Ça ne renseigne pas plus, peut-être, mais... Bon, François Rabelais était effectivement très attiré par Rome, les antiquités et beaucoup de choses autour du Vatican, lui qui était prêtre, donc... Il était fort intéressé par tout ce qui se passait à Rome. Et il va en faire l'expérience. Il l'a fait, je vais dire avec moi, l'an dernier, à 2 reprises. Et nous allons, par 2 fois, retourner en Italie. Pas tout à fait à Rome, parce que son 3e voyage, le premier dont je vais vous parler ce soir, il va le faire en Piémont. À Turin en particulier, dans les environs de Turin. La vie de notre Alco Fribas est pleine d'obscurité. On le retrouve en février 1537. Sachez, je reviens un petit peu en arrière, qu'il est allé en Italie en 1534 et à cheval sur 1535 et 1536. C'était là ses 2 premiers voyages à Rome. En 1537, on le retrouve à un banquet offert à Étienne Dolé, bien connu ici à Orléans, pour le féliciter d'avoir obtenu des lettres de rémission au sujet d'un homicide involontairement commis par lui à Lyon. C'est vous dire qu'à l'époque, nos grands hommes vivaient dangereusement et même se livraient à des actions un peu limites. On retrouve notre Rabelais à Montpellier afin d'y prendre ses derniers grades. Médecin célèbre, il est bientôt licencié, puis docteur, 6 semaines après. À l'été, le voilà revenu à Lyon, où il fait, à ses risques et périls, une leçon d'anatomie sur un cadavre de pendu. Il craint ensuite d'être emprisonné sur l'ordre du cardinal de Tournon, lieutenant général de la ville, pour avoir envoyé en Italie une lettre compromettante. Son contenu aurait-il pu servir à l'ennemi? Il ne s'en sauve qu'en s'avouant roi lui-même et à la reine de Navarre, sœur du roi. À l'automne, de nouveau à Montpellier, il fait son cours public, obligatoire pour tous les nouveaux docteurs, et s'explique sur le texte grec des pronostics d'Hippocrate. Je crois que voilà un buste de ce personnage célèbre. En juillet 1538, notre Rabelais est à Aiguemortes, où il assiste à l'entretien de François Ier et de Charles Quint. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Aiguemortes, voilà les célèbres remparts de la ville. Ça doit être du côté des Marais Salants, si mes souvenirs sont exacts. Où est-il? Que fait-il? Il est là, il n'y est plus, il est insaisissable. Fin 1539, début 1540, on ne le sait pas vraiment, il retourne en Italie pour la 3e fois. À cette occasion, c'est en compagnie du frère du cardinal Jean du Bellay, Guillaume, seigneur de Langeais, nommé gouverneur de Turin après que François Ier se soit emparé du Piémont. Voici un très beau dessin de Guillaume de Langeais. Oui, Guillaume de Langeais. Seigneur de Langeais, Guillaume du Bellay. C'est la même personne. Ce Guillaume de Langeais est historien, diplomate, homme de guerre, et c'est un fidèle parmi les fidèles. Jugez-vous-même, pardon. Il est même envoyé auprès de François Ier, prisonnier de Charles Quint en Espagne, après Pavie. En 1527, il est à Rome, où il fait le coup de feu pour repousser les assauts des lansquenets de Charles Quint, commandé par le connétable de Bourbon, contre le château Saint-Ange. Si, le château Saint-Ange. Où le pape Clément VII, voici une petite image de Clément VII, un tableau célèbre, tableau attribué à Sebastiano del Piombo, tableau qui se trouve au musée de Capodimonte de Naples. Il est à remarquer que ce pape fait relativement jeune. Vous verrez d'autres papes tout à l'heure. On a l'impression, je vais parler un peu vulgairement, de véritables débris. Lui, on a l'air quand même d'une personne pouvant assurer ses tâches de pape au sein du Vatican. C'est une méchanceté que je dis en passant. Au cours de ces escarmouches devant le château Saint-Ange, notons que le connétable de Bourbon y laissera la peau. Il sera tué par les soldats de Guillaume de Langeais. Guillaume de Langeais, vice-roi du Piémont, reprend diverses places aux impériaux. Le marquis del Vasto, de son nom Alfonso de Avalaès, voilà, il est là représenté par le Titien. Le marquis del Vasto disait de lui qu'il était le plus excellent capitaine qu'il eût connu, bien qu'il fût son ennemi. Quant à Brantôme, Pierre de Bourdeil, voici un de ses bustes situés dans la ville même de Brantôme. Quant à Brantôme, il affirmait, je lis, « Entre grands points de capitaine qu'avait Monsieur de Langeais, c'est qu'il dépensait fort en espions. En quoi j'ai ouï compter qu'étant en Piémont, il mandait et envoyait au roi avertissement de ce qui se faisait ou devait faire vers la Picardie ou la Flandre. Si que le roi qui en était voisin est plus près et n'en savait rien, et puis après, en venant savoir le vrai, s'ébahissait comment il pouvait découvrir ses secrets. » Montaigne, voici un dessin dont je n'ai pas trouvé l'auteur, peut-être quelqu'un pourra-t-il me renseigner. Montaigne, cependant, portait un jugement moins flatteur. Je le cite là encore. « Je ne veux pas croire qu'il ait changé, quant au gros du fait, mais de contourner le jugement des événements, souvent contre raison, à notre avantage, et de mettre tout ce qu'il y a de chatouilleux en la vie de son maître, il en fait métier. Témoin, les disgrâces de Montmorency et de Biron, qui y sont oubliées. Voir le seul nom de Madame d'Étampes ne s'y trouve point. On peut couvrir les actions secrètes, mais de taire ce que tout le monde sait et les choses qui ont des effets publics et de telles conséquences, c'est un défaut inexcusable. » Il me semble que la phrase est un peu plus actuelle. La trace de Rabelais se perd une fois encore. Un de ses amis, Boissonnet, visite Turin en avril 1540. Il cite tous ceux qu'il y rencontre. Rabelais n'apparaît pas dans la liste. On peut donc penser qu'il n'arrive dans la ville qu'en mai, peut-être en compagnie de Madame de Langeais. De santé fragile, ne supportant pas le climat du lieu, elle y mourra, hélas, l'année suivante. Ce séjour piémontais, ou plutôt ces petits séjours successifs, ont laissé peu de choses dans les archives locales. Un scandale, peut-être, une lettre que Rabelais envoie à un ami de Rome, est interceptée. Une de plus. On en ignore le contenu. Mais il doit revenir à la cour, là encore, fin 1540, pour se disculper de nouveau. Fin 1541, Langeais prend un congé de 6 mois, sans doute après le décès de son épouse. Rabelais et Étienne Lorenz semble l'avoir accompagné et être passé par Saint-Y, à 2 pas d'ici, dont Étienne Lorenz est le seigneur. Une lettre à un ami, Antoine Hulot, en témoigne. en mai 1542, retour à Turin. Rabelais, sans doute médecin personnel de Langeais, fait aussi office de secrétaire littéraire. Il n'est pas exclu qu'il ait collaboré à la composition en latin, puis à la traduction en français de la chronique du règne de François Ier, les Ogdoades, que Langeais préparait depuis longtemps. Il est même possible que les mystérieux stratagèmes perdus de Rabelais soient issus de ce travail. De Turin, Rabelais semble avoir entretenu une correspondance suivie avec l'ambassadeur français à Venise, Guillaume Pélissier. Entre eux, pas de politique, mais échanges botaniques, dont se pique Pélissier, et médicaux. Question aussi sur des manuscrits grecs que Pélissier est chargé de rechercher à Venise afin de les ramener à la cour de Fontainebleau. Un événement, pourtant bien anodin, va particulièrement intéresser Rabelais, le mariage et ses suites de Filippo Sacco, personnage totalement inconnu, mais qui aurait très certainement rendu de grands services à la France pendant l'occupation du Milanais, toute récente, puisque cela a occasionné l'arrivée de Langeais à Turin. Sacco est âgé, sans femme ni enfant. Il voudrait bien engendrer un héritier. Et à cette fin, il cherche et choisit une jeune femme, Fausta Maggiolini, veuve et d'une vertu évidemment irréprochable. Or, à peine 172 jours après son deuxième mariage, la belle Fausta donne naissance à une petite fille. Et les langues d'aller bon train. Deux questions. Cet enfant peut-elle être déclaré légitime? Et surtout, quelles sont ses chances de survie? De Venise à Turin, de Milan à Padoue, excusez du peu, les débats sont ardents et l'affaire Sacco devient une cause célèbre. Mais nous ignorons les réponses apportées tant par les facultés que par Rabelais ou Pélissier. Toutefois, des écrits nous apprennent que l'événement est remonté jusqu'à la cour de France auprès de Bochetel, secrétaire d'État de François Ier. Et il est vraisemblable que Sacco ait eu gain de cause et que l'enfant ait été légitimé. Pour service rendu du père, évidemment. Quant à l'honneur de la jeune mère, nul n'en parle, fût-il bien écorné. Plus dramatiques sont les échanges que Rabelais avec son ami Boissonnet. Il n'en reste pratiquement que l'élégie latine de ce dernier, envoyée à Rabelais sans doute en juillet 1541, à l'occasion de la mort de Madame de Langeais, que j'ai évoquée tout à l'heure. Voici ce texte en son intégralité que Boissonnet demandait à Rabelais de transmettre à Guillaume de Langeais. Alors, j'essaie de vous retrouver ça. Aussitôt qu'on apprit la mort de la femme de Langeais et que le bruit parvint à nos oreilles qu'elle avait succombé à une fièvre chaude, pendant que Phébus conduit ses chevaux au milieu de la canicule, je m'en suis affligé et j'en ai gémi, bien que je ne la connusse même pas de vue. Ne suffit-il pas qu'elle ait été l'épouse du grand Langeais pour que je la chante avec tristesse? Elle n'était pas si âgée, au dire de tous, qu'elle ne put vivre longtemps encore. Mais il en a paru autrement aux dieux, qui l'enlèvent à son mari au moment où la guerre redouble de tous côtés. Car si tu dis vrai, dans la lettre que tu m'as fait remettre par le fidèle médecin Grégorius, les armées de Mars frappent à nos portes et les rauques trompettes de Bellone retentissent déjà. Et le soldat dit déjà « Qui est ce perfide? Où se trouve-t-il? Qui nous tend tous ces pièges ?» Il saisit ses armes, prépare sa lance qu'il brandit contre l'ennemi et il se réjouit de porter le casque. Mais elle, pour ne pas entendre ces choses ou pour ne pas voir la voilà qui meurt, laissant ce spectacle aux hommes forts. Maintenant, pour consoler le cœur affligé de Langeais, je lui offre ces vers si faibles qu'ils soient. Tu les diras, toi, Rabelais, malgré leur faiblesse, à cause de la vieille amitié qui existe entre nous. Rabelais se devait évidemment de consoler, d'essayer de consoler M. de Langeais et de l'assister également dans sa tâche suprême de défenseur du Piémont. Car les préparatifs de guerre, encore et encore, vont bon train. Et Boissonnet, conseiller au Parlement français établi à Chambéry, dans la Savoie nouvellement conquise, de craindre pour son poste. Fin 1542, Langeais est rappelé à la cour. Malade, toujours éploré, il n'arrivera jamais auprès du roi. Il meurt le 9 janvier 1543 à Saint-Symphorien de Lay, près de Tarare, entre Lyon et Roanne. Malgré les soins qui ont pu lui prodiguer tout son entourage et Rabelais en particulier. C'est lui qui ramène le corps du défunt au Mans, qui prend part à ses obsèques, auxquelles assiste d'ailleurs un certain Pierre de Ronsard. Ainsi prend fin cette vie auprès de Langeais dont il fut le secrétaire à coup sûr, le médecin certainement, voire l'espion. C'est de cette époque que date une supplique adressée au pape Paul III. Voici ce personnage. Alors quand je vous disais que Clément VII tout à l'heure paraissait très jeune, là vous voyez un pape d'une autre allure. Je ne dirais pas qu'il a fière allure. Je n'irai pas jusque-là. Cette supplique au pape Paul III concerne, et c'est là une grande surprise, la légitimation de François et Junie, deux enfants de Rabelais, nés d'une dame parisienne. Cette étonnante découverte fut faite par un certain abbé Le Cellier, dans les années 1930, dans les archives du Vatican. Et il n'est pas interdit que si un jour ces archives sont ouvertes d'une manière un peu plus importante, on fasse d'autres découvertes, non seulement sur Rabelais, bien entendu, mais également sur d'autres personnages de notre histoire. L'âge des enfants, dans cette supplique, n'est pas mentionné, mais on peut penser qu'ils avaient une dizaine d'années. Rabelais, en tout cas, le père, y est désigné comme prêtre. Que demandent ces enfants ? Ils disent vouloir abolir la tâche de leur naissance, quand même. Pouvoir être habilités aux honneurs, grades et offices séculiers, aussi bien publics que privés. Jouir des mêmes droits que s'ils étaient issus d'un mariage légitime. Le garçon demande en outre une dispense l'autorisant à recevoir les ordres et les bénéfices. Pourquoi pas faire comme son père et devenir père à son tour. Voilà un fait assez rare. Jugez-vous-même, dans les 526 volumes contenant les suppliques des 15 années du pontificat de Paul III, il n'y a que 6 actes de légitimation. On n'est pas certain qu'ils soient tous concernant des enfants de prêtres. C'est fort improbable, d'ailleurs. On ne sait rien de ce que deviennent ensuite ces enfants. Est-ce ce François Rabelais-là qui, avec deux acolytes, détrousse le serviteur d'une riche veuve, en 1558 et est pour ce fait condamné à une amende de 40 sols parisis et à être fustigé nu en place publique? Junie, sa sœur, a-t-elle été la dépositaire des papiers de son père? Certains l'affirment, on n'en est pas sûr. Une autre supplique à Paul III de novembre 1542 attire notre attention. Elle s'attache exclusivement au cumul de bénéfices. Elle est faite par Franciscus Ribelésus, prêtre du diocèse de Tours et docteur en médecine, qui demande à pouvoir librement et licitement détenir 3 cures ou bénéfices séculiers, normalement incompatibles entre eux. Je passe sur les tenants et aboutissants de ce document. C'est simplement une affaire de gros sous. Quand on est père de famille, que voulez-vous ? On a des charges forcément importantes. Mais la demande est accordée en présence du pape par l'évêque de Cézène, un certain Christophorus de Spiritibus, un nom adorable. Les affaires de Rabelais sont donc au mieux au Vatican. Pourtant, il porte sur ce lieu, sur son locataire et sur les artistes qui y travaillent, un jugement bien sévère. Vous allez vous en rendre compte lorsque je vais vous lire des extraits d'une lettre qu'il a adressée à Jean du Bellay et qui concerne en particulier l'étoile de Raphaël et le Vatican plus en général. Restez bien assis. Où avez-vous vu des beautés comme celle-là? Pas un bouton sur le visage, pas un bec de lièvre, pas une lèvre gercée, un mensonge. Tous ces peintres sont des menteurs. Ils flattent leur maître en représentant un monde qui n'existe pas. Un monde rassurant, parfait, tranquille. Et pendant ce temps-là, on étripe, on viole, on écartèle, on brûle. Le monde est laid, éminence. Il est sale, il pue, il saigne. Il n'y a pas une seule vierge au Vatican où le pape et les cardinaux copulent à qui mieux mieux. Et sur les murs, on ne voit que des portraits virginaux. Mensonge, les peintres mentent. Tout n'est que mensonge dans cette pétaudière papale. En revanche, les affaires de Rabelais vont moins bien en France. Le 2 mars 1543, Gargantua et Pantagruel sont condamnés par la Sorbonne. Geoffroy d'Estissac, je l'avais évoqué ce personnage l'an dernier, Geoffroy d'Estissac, premier protecteur de Rabelais, meurt. Mais sans doute Rabelais appartient-il toujours au du Bellay, pour que la condamnation de ces deux livres demeure sans effet, et qu'il obtienne, en 1545, un privilège pour son tiers livre, publié à Paris l'année suivante. Un autre de ses ouvrages, un almanach aujourd'hui disparu, paraît également la même année. Dans les trois quarts du tiers livre, l'auteur oublie que son héros est un géant, et 40 chapitres sur 52 sont consacrés à examiner la question de savoir si Panurge doit se marier. Autrement dit, que vaut le mariage? Que valent les femmes? Et la vie de Rabelais, là encore, n'est pas très flatteur. Le corps des femmes, dit-il, est un curieux alambic. La femme est formée d'humeurs froides et humides, au contraire de l'homme, chaud et sec. La froideur et l'humidité signifient un tempérament inconstant, trompeur, rusé, ou le bas, régnant sur le haut, conduit certaines mégères aux pratiques détestables de la sorcellerie. Et comme Luther, voici, j'ai oublié de vous présenter Raphaël, un autoportrait de Raphaël qu'évoquait Rabelais dans la lettre précédente. Et j'en arrive à Martin Luther, un portrait de Lucas Cranach, je crois. Et comme Luther, moine, marié à une religieuse, il aurait pu dire, je vous prie de m'excuser, quel terrible despote que le cul. En dépit de l'interdiction faite à la science de l'étude du corps féminin, Rabelais ne le dédaigne pas, puisqu'il a eu 2 enfants, et que même il en aurait eu un troisième, un certain Théodule, conçu avec une dame lyonnaise cette fois. Il aurait même emmené le petit Théodule à Rome, mais le pauvre y meurt prématurément à l'âge de 2 ans. Rabelais en fut très affecté, ce qui le coupa, peut-être, définitivement de la fréquentation des femmes, dont il fit des ogresses, telle sa Gargamel, qui aime si souvent faire la bête à 2 dos, se goinfre de tripes, boit des tonneaux de vin et se complète aux plaisanteries obscènes. Le tiers livre que j'évoquais il y a un instant, bien que dédié à la reine de Navarre, là je crois que je ne me suis pas trompé, la voici, Marguerite, c'est un portrait de Jean Clouet. La reine de Navarre, oui. Et quoique la Sorbonne n'y soit pas attaquée, ce livre, ce tiers-livre est poursuivi et condamné. Et condamnation de la Sorbonne signifie pour Rabelais de devoir s'enfuir. Il trouve asile à Metz. Metz n'est pas une ville française à l'époque. Chez son ami, encore une fois, Étienne Lorrain, seigneur de Saint-Y, qui possède là une demeure où il descend quand il va conférer en Allemagne avec les protestants sur les ordres de Du Bellay. C'est dire qu'il n'y a pas encore tout à fait les prémices des guerres de religion. On évoque déjà tous les personnages principaux, hein, on vient de parler de Luther, et qu'il y a effectivement des tractations entre les deux parties. La suite sera moins glorieuse, hélas. On ne sait combien dure le séjour de Rabelais à Metz, mais un événement capital va changer le cours des choses. Et quel événement ? Le 31 mars 1547, François Ier meurt. Henri II accède au trône. Fort apprécié par le nouveau roi, Jean Du Bellay est envoyé à Rome avec autorité sur les cardinaux français et il est chargé de la surintendance générale des affaires du royaume en Italie. On ignore si Rabelais arrive à Rome avec le cardinal le 27 septembre 1547. Ce dont on est certain, c'est qu'il s'y trouve le 18 juin 1548, lorsqu'il reçoit d'un banquier florentin la somme de 96 livres, dont il lui donne quittance. L'origine de ces fonds est inconnue, sans doute de Du Bellay, correspondant vraisemblablement à ses appointements comme médecin. La maisonnée de Du Bellay est installée sur la Piazza San Apostoli. En voici un très beau dessin du XVIIe siècle, où le cardinal a loué le grand palais d'Ascanio Colonna. Palais Colonna qui se trouve sur la droite de cette image. En voici une photographie actuelle. C'est sur cette place qu'aura lieu le 14 mars 1549 un fameux tournoi connu sous le nom de Siomachi que j'évoquerai un petit peu plus longuement dans un instant. Ce lieu est également bien situé par rapport au forum, tout le monde connaît, et à l'église San Adriano où Du Bellay va entreprendre une campagne de fouilles archéologiques dont se pique également très fort François Rabelais. Ce même Rabelais, s'il est là comme médecin, a certainement de nombreuses autres activités. Homme de lettres, évidemment, humaniste, archéologue, je viens de l'évoquer, apologiste, il sait faire. Souvenez-vous, ceux qui étaient là l'an dernier, je vous avais lu une lettre qui n'était pas piquée des vers, pardon de mon expression. Il a aussi un rôle politique. En tout cas, il fréquente les membres du cénacle de Du Bellay, par exemple, le poète diplomate et futur cardinal Girolamo della Rovere, un secrétaire du pape Paul III, le cardinal Maffei, l'archéologue papal Marco Maccarone, et tous les membres, dont un autre secrétaire du pape Giovanni Bianchetto, de l'Accademia dello Sdegno, auquel Du Bellay est lié. Tous sont férus d'archéologie, et Rabelais, pour qui la topographie romaine n'a pas de secret, participe sûrement aux fouilles, si fructueuses que Du Bellay va pouvoir exporter une première cargaison vers la France. Pillage privilégié, je ne ferai aucun commentaire à ce sujet. Plus anecdotique est l'intérêt porté par Rabelais à l'origine de certains mots. Ainsi, Pitalieri, nom donné aux officiers chargés de nettoyer les chaises percées des cardinaux réunis en conclave. Il ne devait pas avoir beaucoup de travail. Cela viendrait tout bêtement d'un terme toscan, pital, le pot de chambre. Plus curieux, Rabelais fait état de son apprentissage de la langue arabe. auprès de l'évêque de Karamit, en Arménie, qui lui aurait servi de précepteur. Plus sérieux, la parution du quart livre. Rabelais y mentionne la tenue du chapitre général des lanternes, allusion à l'ouverture du concile de Trente en 1545. Voici une image, un tableau attribué à Paolo Farinatis de ce concile de Trente. Les Français, le roi Henri II et le roi François Ier en 1545 n'est pas encore mort, François Ier puis Henri II auraient souhaité qu'il se tînt à Turin, en terre française à l'époque, et non en terre d'empire. À son avènement, Henri II acceptera qu'une délégation fût envoyée, alors que le concile est transféré à Bologne, peut-être dans l'église San Petronio que certains connaissent et ont pu visiter. Voici cette église dont la façade n'a jamais été terminée. Le dit concile de Trente sera suspendu un temps par Paul III en février 1548, mais en fait la mesure ne sera effective qu'en 1549, en septembre 1549. Pour la sortie du quart livre que j'ai évoqué, Rabelais a fait le choix d'un éditeur parisien, raison financière sans doute, mais c'est chez son ami Pierre de Tours que paraît en 1548 la première édition collective de ses œuvres, célébrée par ses contemporains, en particulier par Joachim du Bellay, neveu du cardinal, qui en fait l'éloge dans sa défense et illustration de la langue française, paru en 1549. Je vais vous en lire un petit passage. Cet éloge qui est dédié à son oncle Jean du Bellay. Toutefois, je te veux bien avertir que tous les savants hommes de France n'ont point méprisé leur vulgaire. Celui qui fait renaître Aristophane et feint si bien le nez de Lucien en porte bon témoignage. À ma volonté que beaucoup en divers genres d'écrire voulussent se faire le semblable, non point s'amuser à dérober l'écorce de celui dont je parle, pour en couvrir le bois tout vermoulu de je ne sais quelle lourderie si mal plaisante qu'il ne faudrait autre recette pour faire passer l'envie de rire à Démocrite. Est-ce un éloge sincère ou manière de plaire à cet oncle auprès de qui Rabelais semble bien s'être rendu indispensable? Arrive le 14 mars 1549. Du Bellay organise à Rome un grand combat suivi d'un banquet pour fêter la naissance du deuxième fils d'Henri II et de Catherine de Médicis. Si les portraits... Ah, ça c'est le portrait de Joachim du Bellay. Hein? Un très beau portrait dû à Jean Cousin. Et voici les portraits d'Henri II et de Catherine de Médicis, tous deux par Clouet. Hein? Voilà. Alors, il n'avait rien de bien réjouissant, hein, Catherine de Médicis. Le petit Louis d'Orléans, donc deuxième fils d'Henri II et de Catherine de Médicis, n'atteindra malheureusement pas ses 2 ans. Le compte-rendu de cet événement, cette fête donnée par du Bellay, sera publié avant la fin 1549 chez Sébastien Griff à Lyon, sous le titre « Siomachie et festin, faits à Rome ». Outre ce document, 3 autres récits relatent le déroulement de cette fête. Un rapport de Benedetto Buonanni, secrétaire de l'ambassadeur florentin à Rome, les extraits du journal d'un citoyen romain, Colla Colleine, un bulletin imprimé signé A.B. très certainement Antonio Buonaccorsi, secrétaire du cardinal Ippolito d'Este, chez l'imprimeur Antonio Blado. Le récit est plus sommaire que celui de Rabelais, mais une comparaison des deux textes révèle tant de ressemblances qu'il ne fait aucun doute que Rabelais a puisé chez A.B. l'essentiel de la sciomachie. Cet événement a tout d'exceptionnel. L'annonce de la naissance du jeune prince aussi. Survenu à Saint-Germain-en-Laye le 3 février 1549 à 3 ou 4 heures du matin, le bruit en aurait couru quasi immédiatement dans Rome. Pareil événement, pareille chose curieuse, se serait produite d'ailleurs pour l'annonce de la bataille de Pavie et pour le duel entre Jarnac et la Châtaigneraie. En fait, la nouvelle ne fut confirmée que 7 jours plus tard, ce qui paraît beaucoup plus normal. Et Rabelais est d'évoquer les dieux tutélaires, les anges gardiens. Jean du Bellay aurait alors décidé de réaliser quelque chose de spectaculaire, de grandiose, du jamais vu à Rome, un peu à l'image de ce qu'avait fait le seigneur Gian Giordano Orsini à l'annonce de la victoire de Marignan. Une sciomachie, simulacre et représentation de bataille sur terre et sur eau, la nomachie. Cette nomachie aurait dû se tenir devant le château Saint-Ange, qu'on a vu tout à l'heure. 50 petits vaisseaux, dont des gondoles. C'est d'ailleurs la première apparition de ce mot en français. 50 petits vaisseaux devaient affronter un énorme galion composé de 2 des plus grands vaisseaux du port associés. Le galion était bourré de feux d'artifice. Là aussi, ce serait la première apparition, le premier emploi de ce terme en français. Mais le combat dut être annulé. Une terrible et soudaine crue du Tibre mit fin à ce qui aurait pu être la bataille navale. Reste que la fête est grandiose. Les grands noms de l'époque sont de la partie. Horace Farnèse, Robert Strozzi, Maligny, sans doute plus à l'origine de l'événement que Jean du Bellay lui-même. La famille de Paul III, qu'on a vu en si triste état tout à l'heure, est aux premières loges. Et oui, compte tenu de cet état, il faut bien préparer la succession et parfaire les alliances, toujours la lutte entre le parti français et les impériaux. Et puis le jeune Louis, dans une Italie dont la France aurait pris le contrôle, ne ferait-il pas un illustre monarque? Que de plans échafaudés pour ce jeune homme, ce jeune homme, cet enfant. Mais revenons à la sciomachie. Lâché de taureaux, 4 combattus de manière différente pour le spectacle. Entrée de jeunes et belles dames, dont voici la description par Rabelais. Desquelles la principale, plus éminente et haute de toutes autres, représentant Diane, portait sur le sommet du front un croissant d'argent, la chevelure blonde éparse sur les épaules, tressée sur la tête avec une guirlande de laurier, toute atrophiée de roses, violettes et autres belles fleurs, vêtue sur la sotane et verdugal de damas rouges cramoisis à riches broderies, d'une fine toile de Chypre toute battue d'or, curieusement pliée, comme si fût un rocher de cardinal, descendant jusque à mi-jambe, et par-dessus une peau de léopard bien rare et précieuse, attachée à gros boutons d'or sur l'épaule gauche. Ses bottines dorées, entaillées et nouées à la nymphale, avec cordons de toile d'argent. Son corps d'ivoire pendant sous le bras gauche, sa trousse, précieusement récamée et labourée de perles, pendait de l'épaule droite à gros cordons et houppes de soie blanche et incarnate. Elle, en main droite, tenait une dardelle argentée. Les autres nymphes, peu différaient en accoutrement, excepté qu'elles n'avaient le croissant d'argent sur le front. Chacune tenait un arc turquois bien beau en main, et la trousse comme la première. Aucune sur leur rocher portait peau d'africaine, autre de loup cervier, autre de marthe calabraise. Aucune menait des livriers en laisse, d'autres sonnaient de leur trompe. C'était belle chose de les voir. Et les troupes, fantassins, cavaliers, gardes suisses, on a érigé un château sur la place Saint-Apostoli. Château qu'il faut prendre. Simulacre, à peine. Que non, les échauffourées sont sérieuses. Et même pendant les répétitions qui eurent lieu dans les termes de Dioclétien, il y eut quelques éclopés. Cet épisode terminé, les jeux du cirque se poursuivent. On en arrive au combat singulier. Là encore, je lis Rabelais. Les trompettes retournées sortirent hors le château deux hommes d'armes, ayant chacun la lance au poing et la visière abattue, et se posèrent sur le revelin du fossé, en face des assaillants, de la bande desquels, pareillement, se targèrent deux hommes d'armes, lance au poing, visière abattue. Alors, sonnant les trompettes, d'un côté et d'autre, les hommes d'armes, soit rencontrèrent, piquant furieusement leurs destriers, puis les lances rompues, tant d'un côté comme de l'autre, mirent la main aux épées, et soit chamaillèrent l'un l'autre si brusquement que leurs épées volèrent en pièces. Ces quatre retirés, sortirent quatre autres et combattirent deux contre deux, comme les premiers, et ainsi, consentement, combattirent tous les gens de cheval des deux bandes controverses. Après ces escarmouches, les combats recommencent pour investir le château, au son de l'artillerie. Grand vacarme, qui ne cesse que pour laisser place aux pitreries des Bouffons, Frérot et Fabricio, dont Rabelais fait grand cas. Voici ce qu'il en dit. Frérot a tout son accoutrement de velours incarnat feuilleté de toile d'argent à forme d'aile de souris chauve, et Fabricio, avec sa couronne de laurier, soit joignirent à eux. L'un les admonestait de leur salut, les confessait et absolvait comme gens morts pour la foi, l'autre les tâtait au gousset et en la braguette pour trouver la bourse. Et l'artillerie le tenait, tant que la muraille du château s'effondre sous les vivats de la foule. Là encore, voici ce qu'en dit notre Rabelais. Le peuple assistant, grands et menus, nobles et roturiers, réguliers et séculiers, hommes et femmes, bien au plein et jouis, contents et satisfaits, firent applaudissements de joie et allégresse de tous côtés, à haute voix, criant et chantant « Vive France, 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 vive Orléans, vive Horace Farnèse !» Quelques-uns ajoutèrent « Vive Paris, vive Belley, vive la côte de Langeais !» Nous pouvons dire ce que jadis l'on chantait à la dénonciation des jeux séculaires, nous avons vu ce que personne en Rome vivant ne vit, personne en Rome vivant ne verra. Et l'heure de se restaurer, il le faut bien, arriva. Là encore, je cite Rabelais. L'heure était là, tarde et opportune pour souper, lequel, pendant que son Excellence se désarma et changea d'habillement, ensemble tous les vaillants champions et nobles combattants, fut dressé en somptuosité et magnificence si grande qu'elle pouvait effacer les célèbres banquets de plusieurs anciens empereurs romains et barbares, voire certes la patine et cuisinerie de Vitellius, tant célébrée qu'elle vint en proverbe, au banquet duquel fut servi 1000 pièces de poisson. Je ne parlerai point du nombre et rares espèces des poissons ici servis, il est par trop excessif. Bien vous direz qu'à ce banquet furent servies plus de 1500 pièces de four, j'entends pâtés, tartes et darioles. Si les viandes furent copieuses, aussi furent les bevettes numéreuses, car 30 poinçons de vin et 150 douzaines de pains de bouche ne durèrent guère, sans l'autre pain mollet et commun. Aussi fut la maison de mon dit seigneur révérendissime ouverte à tout venant, quel qu'il fût, tout y se lui jour. La table d'honneur de ce banquet extraordinaire est occupée par pas moins de 12 cardinaux, mais aussi son Excellence le seigneur Strozzi, l'ambassadeur de Venise, et de nombreux évêques ou prélats de moindre importance. Pareil festin ne pouvait se terminer que par un bal, qui, selon Rabelais, dura jusqu'au jour. à peine troublée par les feux d'artifice qui, deux soirs de suite, illuminent la place San Apostoli. Ce bal, dont se retirèrent les membres du clergé en grande jubilation et contentement, est resté dans les mémoires de Rome. De cette admirable fête, Rabelais donne deux choses insignes que voici. L'une est qu'il n'y eut noise, débat, dissension, ni tumulte aucun. L'autre, que de tant de vaisselles d'argent, laquelle tant de gens de divers états furent servis, il n'y eut rien perdu ni égaré. Les deux soirs subséquents furent faits feu de joie en la place publique, devant le palais de mon dit seigneur révérendissime, avec force artillerie et tant de diversité de feux artificiels que c'était chose merveilleuse, comme de gros ballons, de gros mortiers, jetant par chaque fois plus de 500 siopes et fusées, de rouées à feu, de moulins à feu, de nues à feu, pleines d'étoiles coruscantes, de siopes en canon, aucune prégnante, autre réciproquante et cent autres sortes. Le tout fait par l'invention du dit Vicencio et du Bois-le-Court, grand salpêtrier du Maine. Rabelais intendant, vous l'avez peut-être noté, aurait-il été chargé de compter les petites cuillères et de vérifier les poches des illustres invités de monsieur le cardinal du Bellay ? Nul ne le sait. Quoi qu'il en soit, il ne se borne pas, comme Antoine Buonaccorsi, que j'ai cité tout à l'heure, à une seule relation de l'événement. Il s'étend également sur sa préparation, qui fut loin d'être un long fleuve tranquille. Après l'annonce miraculeuse de la naissance du jeune prince, sa confirmation en plein préparatif du carnaval romain avait incité les membres du parti français à organiser leur réjouissance dans le cadre des festivités carnavalesques traditionnelles. Mais sous les trombes d'eau, tous ces projets furent abandonnés. Il en fit de même pour la nomachie, je vous l'ai dit tout à l'heure. En fait, ce serait le pape plutôt qui l'aurait interdite, jugeant ce spectacle inconvenant en plein carême. Mais du Bellay imaginait bien plus. Il envisageait d'acheter tout un pâté de maison et d'exprimer sa joie par un immense incendie. Au secours, Néron revient. Lors des répétitions dans les termes de Dioclétien, que j'ai cité tout à l'heure, en voici là aussi une très belle image du XVIe siècle, je crois. Les restaurations qui ont été faites sont beaucoup moins flatteuses, je trouve. Lors des répétitions dans les termes de Dioclétien, le cardinal Carafa chassa sans ménagement les Français éclopés, venus demander du secours, et exigea en consistoire l'interdiction de la fête, qu'il pensait être, lui aussi, une profanation du carême. L'opposition grandissante et le mauvais temps obligèrent à repousser quatre fois la fête, et il fallut toute l'influence des Français, aidés des Florentins, pour déjouer la manœuvre de Carafa et bien sûr du parti impérial. Elle eut, cette fête, bel et bien lieu, et n'est pas sans rappeler l'entrée triomphale d'Henri II à Lyon le 23 septembre précédent. Mais il semble presque certain que du Bellay a voulu en tout surpasser les réjouissances lyonnaises. Un seul exemple, à Lyon, un feu d'artifice, à Rome, deux et deux soirs de suite. Tout est fait pour le triomphe du parti français. Le succès populaire y concourt. La solidarité d'une grande partie de la noblesse romaine aussi. L'ardeur patriotique des résidents français à Rome est indéfectible. C'est l'union de la France avec l'Italie qui est annoncée. Par les mariages, Henri II n'a-t-il pas épousé Catherine de Médicis ? Nous les avons vus tout à l'heure. François d'Aumale avec Anne d'Est. Voici François d'Aumale. Nous le connaissons ici à Orléans. C'est François de Guise qui a fini ses jours à Saint-Hilaire, Saint-Mémin, arquebusé, je crois, par Paul Trot de Méret. Et voici la petite Anne d'Est. nous connaissons sa maman, nous qui sommes allés pour certains à Ferrare. Ouais. C'est René de France, qui est venu également finir ses jours dans le Loiret à Montargis. C'est un émail d'un certain Édouard Limousin. Non, pas Édouard, Léonard, pardon. Léonard Limousin. Union aussi d'Horatio Farnèse, Horace Farnèse qui a été cité tout à l'heure, avec Diane de France. Alors si je n'ai pas de portrait des deux personnages, j'ai en revanche un tableau représentant leur mariage. Alors la petite Diane de France, je vais essayer de vous la montrer, elle est forcément là, et Horatio Farnèse est ici à droite, ce beau jeune homme. Ce sera un mariage tragique puisque le jeune mari mourra à la bataille d'Hesdin, je crois, 4 ou 5 mois plus tard. Hesdin, oui, H-E-S-D-I-N. Alors, tous ces mariages, toutes ces unions franco-italiennes, laisse présager pour le petit roi, pour le futur petit roi Louis d'Orléans, quelque chose d'exceptionnel. Il est dédié à Rome et à l'Italie. Il serait, dans l'esprit du parti français, le successeur de Romulus, rien moins, fondateur d'une nouvelle dynastie qui régnera sur Rome et l'Italie. Vous imaginez, quand on sait le sort de ce pauvre enfant. Tout est fait aussi pour vanter l'action de Jean du Bellay. Une présumée disgrâce à la cour l'incitait à s'attribuer le beau rôle. Mais ses efforts ne furent pas en pure perte. Une lettre du cardinal de Guise l'atteste. Charles de Lorraine, duc de Guise, vous la lire. Ledit seigneur Henri II, ayant su l'allégresse et triomphe qui s'est faite à Rome pour la naissance de Monsieur d'Orléans, son second fils, en a reçu un très grand plaisir et merveilleux contentement, qui d'autant plus lui a été agréable que vous en avez été l'auteur, et que cela s'est fait en l'espace où est assis votre palais. Pour autant qu'en Icelle, vous savez être plusieurs qui ne prenaient pas grand plaisir à voir telle fête et récréation pour la nation française. J'espère avec Dieu que cela nous pourra servir de quelque bon augure, puis que ce petit prince a été célébré si jeune en ce pays. Et crois qu'avec l'occasion, vous pourrez obtenir du roi récompense condigne à tel mérite. C'est vous dire que Jean du Bellay est revenu bien en cours. Du Bellay, malheureusement, n'en tirera pas profit. À la mi-juillet 1549, il tombe malade. Les médecins craignent pour sa vie et lui ordonnent un changement d'air. Le roi, cependant, ne lui accorde un congé, 2-3 mois seulement, qu'à la mi-septembre. Et, parti de Rome le 22, il passe à Florence, sans doute à Ferrare, et arrive à Lyon à la fin octobre. La mort de Paul III, survenue le 10 novembre, l'oblige à retourner à Rome pour le conclave, malade ou pas. En fait, il ne mourra que 11 ans plus tard. Qu'en est-il de Rabelais ? Il est sans doute rentré en France avec du Bellay, mais rien ne nous dit qu'il soit retourné à Rome pour suivre le conclave. On perd sa trace et il n'a sans doute pas vu le nouveau pape Jules III, Gian Maria Ciocci del Monte, fils d'un juriste romain, seulement élu le 7 février 1550. Non, ah ça c'est le cardinal de Guise que j'ai oublié, auteur de la lettre que je vous ai lue tout à l'heure, Charles de Lorraine. Et voici le pape Jules III, tableau dont je ne connais pas l'auteur, si quelqu'un peut m'aider. Qui n'est pas en bien bel état, un peu à l'image de Paul III que nous avons vu tout à l'heure. Revenons à Rabelais. Son quart-livre contient quelques rares réminiscences de ce dernier séjour à Rome, l'allusion à la vieille basilique Saint-Pierre, à demi ruinée, la mention des Pitalieri que j'ai évoquée tout à l'heure, les paroles de courtisane romaine, peut-être qu'il ne déniait pas, contrairement à ce qu'on a pu dire tout à l'heure, la compagnie féminine, le nom de l'écuyer de Dubellay, sieur de Malicorne, celui de Pandolfo della Casa, banquier florentin qui habitait les banquiers à Rome, bien peu de choses. Il est possible que Rabelais ait publié des ouvrages en italien durant ce dernier séjour, mais c'est dans le langage du quart livre parsemé d'italianisme qu'on peut discerner l'influence des quatre séjours en Italie. Retiré du monde, François Rabelais meurt à Paris début avril 1553. 10 ans en son dernier souffle, mais nul ne peut l'attester, tiré le rideau, la farce est jouée. La mienne aussi. Mais il me plairait de vous quitter sur les mots d'un grand écrivain d'aujourd'hui qui le considère comme un génie, Milan Kundera. Dans son art du roman, voilà ce qu'il dit. Il y a un proverbe juif admirable. L'homme pense, Dieu rit. Inspiré par cette sentence, j'aime imaginer que François Rabelais a entendu un jour le rire de Dieu et que c'est ainsi que l'idée du premier grand roman européen est née. Il me plaît de penser que l'art du roman est venu au monde comme l'écho du rire de Dieu. Je vous remercie. Milan Kundera. On allume ? Ce truc est en
panne. Oui. Je vais essayer de parler fort.
Je bois un coup.
Comme je ne vais pas parler longtemps, je ne risque pas d'être épuisée. Alors, pour vous demander, est-ce que vous avez des questions à poser à notre ami ?
Serais-je capable d'y répondre ?
Oh, sûrement. Le premier sera le bienvenu.
Tu as parlé de chiomachie, mais il y a nomachie. Mais je n'ai pas bien compris l'histoire de la chiomachie. Parce que nomachie, on sait ce que c'est.
Nomachie sur l'eau. Chiomachie sur terre. C'est équivalent. Hein? C'est représent. S-C-I-O-M-A-C-H-I-E. Je ne sais pas quelles sont les racines. Si quelqu'un... Non ?
Je ne connais pas
les racines
du
Kios. Ah bah si André ne connaît pas les racines, alors qui va les connaître ?
C'est grec. Hein ? La texte est en grec, ça serait la géomachie. Oui.
C'est le nom trouvé dans Rabelais. Alors je ne sais où il a trouvé... Moi, peut-être l'a-t-il inventé, je ne sais pas. Il a inventé tellement de mots. C'est possible. C'est une supposition. C'est complètement gratuite. C'est un terme de Rabelais.
Il n'y avait pas d'explication, il n'y avait pas de notule.
Non, il n'y a pas d'explication particulière, même dans...
Alors, tu as cité des livres là. Peux-tu les dire quels sont ces livres que tu nous as...
Ah, bah j'ai le Rabelais, mais c'est l'édition ancienne présentée par Jacques Boulanger, ouais. La Pléiade. J'ai le Rabelais de Mireille Huchon, Mireille Huchon a présenté l'édition plus récente dans la Pléiade des œuvres de Rabelais.
Il y a combien d'années?
Mireille Huchon, c'est très récent. Ce livre-ci, là, le Rabelais de... Je puis vous dire en quelle année, c'est très très récent. 2011. Et puis là, c'est la Bible. C'est Richard Cooper.
Ah,
un anglais, qui est vraiment l'exégète de Rabelais. Hein. Ça, c'est un tout petit livre, mais je crois qu'il y a je ne sais combien de volumes. Édité en Suisse.
En tout cas, Rabelais, hors du commun, très bien explicité par notre ami.
Oui, hors du commun, oui. En fait, la façon dont
on l'a fait. C'est un
personnage hors du commun.
Un personnage.
Hors du commun, absolument.
Hein, il n'y en a pas deux, là.
Oui. Remercions beaucoup notre ami d'avoir fait tout ce travail de recherche.
Ce qui est, oui, il y a des aspects très surprenants du personnage. Hein. Père de famille à trois reprises. Le pape donne l'absolution de tout ça, donc c'est vous dire les mœurs de l'époque.
Les relations franco-italiennes qui sont extraordinaires.
Ah ben, c'est la succession, hein. Charles VIII, François Ier, Henri II. Les rois de France n'ont fait que des allers-retours en Italie, hein. Ça n'a pas cessé pendant un siècle, là, voire plus.
Hein.
Et comme je l'ai dit, ils auraient bien aimé qu'on installât un roi de France, un Français, roi d'Italie.
Hein?
Enfin, entente relative, hein? Entente de certains princes, hein? Mais pas de tous. Hein? Là, en l'occurrence, les Florentins étaient avec les Français, mais il y avait bien d'autres princes italiens qui... prenaient les armes contre eux. Hein. Ça n'est pas la totalité des princes italiens.
Alors,
Écrivain, poète, enfin prêtre d'abord, prêtre, écrivain, poète, archéologue. Médecin, et quel médecin? Espion, très vraisemblablement. Et il a fait des...
Espion. Hein? Mais vous pouvez poser des questions.
Le deuxième enfant d'Henri II, là, je crois...
Oui, petit Louis, il s'appelait Louis.
Qu'est-ce qu'il est devenu, alors?
Il est mort, il n'a pas atteint ses 2 ans.
C'est ça, c'est parce que vous avez combien d'enfants, là?
Ah ben oui, il y a eu François II qui est mort ici, hein, Charles IX, voilà, et puis j'ai plus qui, Henri III, Henri III.
Ouais. C'est imbriqué dans l'histoire de France. Ouais.